Christian Benedetti, est-ce qu'il y a une phrase d'un texte, d'une pièce d'Edouard Bond ou une phrase de lui qui vous accompagne encore aujourd'hui ?
Toutes les révolutions sont inscrites au dos du calendrier.
Et pourquoi ? Pourquoi celle-là ?
Parce que je me dis qu'elle devrait servir d'arguments et de méditation pour tous les peuples qui veulent retrouver un avenir radieux et vivre en harmonie. Et je pense qu'il y a la seule solution aujourd'hui, c'est la révolution.
Et c'est une phrase que vous aviez inscrite sur les murs du théâtre ?
Oui, on l'a inscrite sur les murs du théâtre, et un jour, Edouard, qui était venu travailler avec nous, avait pris un stylo et l'avait signé sur le mur. Il faisait ça de temps en temps, je trouvais ça très joli.
Il est 19h sur France Culture et Edouard Bond était un enfant de la guerre. Le dramaturge anglais est mort à l'âge de 89 ans en mars 2024. Il écrivait dans son recueil d'articles sur le théâtre, La Trame Cachée, « Je suis né à 8h30 le soir du mercredi 18 juillet 1934 pendant un orage. » Il écrivait « J'ai été bombardé pour la première fois à 5 ans. » Plus tard, l'armée m'a enseigné 10 façons de tuer mon ennemi et à 20 ans, j'ai écrit une pièce. Edouard Bond est donc né en 1934 dans un quartier populaire de Londres, dans une famille ouvrière. Toute son œuvre reste imprégnée de l'expérience de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il arrête l'école à 15 ans, mais juste avant, à cet âge-là, il voit Macbeth au théâtre avec sa classe et dira « Pour la première fois, quelqu'un me parlait de ma vie ». Il commence à écrire, la première pièce mise en scène sera « Sauvée » en 1965 et le scandale à Londres est total. Edouard Bond, à qui on reprochait parfois la violence, ne comprenait pas la censure, puisqu'il tentait de comprendre cette violence, d'analyser ce qui peut amener à donner la mort. C'est Claude Régis qui montra « Sauvé » en 1972, plus tard Patrice Chéreau montra sa pièce « Lire » en 1975, Alain Françon lancera, avec les pièces de guerre en 1994, un compagnonnage avec Edouard Bond, comme le metteur en scène Christian Benedetti au Studio Théâtre d'Alfortville. Edouard Bond mettra toujours ses personnages dans des situations extrêmes. Sans cesse, avec la même question, peut-on être humain dans une société inhumaine ? Edouard Bond se révélera visionnaire en précédant l'actualité et en misant sur la force de l'imaginaire qui peut réécrire la réalité. Lui qui dira « Le théâtre reconstruit l'image de l'homme ». Lui qui dit et pense que c'est dans les ruines qu'on apprend l'architecture. Nous sommes en ligne depuis la Roumanie avec le metteur en scène et fondateur du Théâtre Studio d'Alfortville, Christian Benedetti. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. On commence avec la voix d'Edouard Bond. Nous sommes en 1973. Il est au micro de Jean-Louis Barrault.
Il y a beaucoup de personnes qui, tout en admirant votre travail, pensent que vous avez une intention préconçue de cruauté. Que vous voulez mettre sur la scène la cruauté d'une façon volontaire, peut-être pour choquer ou pour provoquer les gens. Et moi, je crois que vous avez autre chose à dire à ce sujet, parce que il me semble que votre sens de la cruauté vient de beaucoup plus loin. Il vient de votre amour de l'humanité et de votre désir de justice. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sens de la cruauté et qui apparaît dans vos œuvres ?
I don't write plays. I don't set up with the intention of writing plays that will shock or scandalize.
Je n'écris pas des pièces dans l'intention de choquer ou de scandaliser. L'une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est que je suis moi-même choqué et scandalisé par la société, par la vie. Donc, lorsque je veux écrire sur ma vie, sur la société actuelle, et c'est le devoir d'un auteur, il me faut porter à la scène des choses brutales et scandaleuses, non pas pour des motifs de névrose, non pas insulter un public, mais pour remettre en mémoire des spectateurs certaines choses qu'ils essaient d'oublier dans la vie. C'est une responsabilité. Le théâtre n'est pas une évasion de la vie. Il est une partie de la réalité de l'existence.
Si je comprends bien, et dans ce cas-là, je partagerai votre sentiment, c'est que votre travail n'est pas une question provocante, mais une réponse indignée.
Well, it's both things. I mean, I write out of a sense of indignation. I also
cela participe des deux. J'écris par l'indignation et à d'autres moments par un sentiment de bonheur, mais plus souvent par indignation, car j'estime que nous vivons en un temps très difficile. La scène est un très bon moyen de communication avec le public contemporain. Elle exige la vérité.
Christian Benedetti, quand vous ouvrez le théâtre studio d'Alfortville, en 1997, c'est avec une mise en scène de Sauvé, et puis Édouard Bond deviendra auteur associé et commence alors là un long compagnonnage. Comment s'est passée la première rencontre pour vous avec l'écriture d'Édouard Bond ?
J'ai lu Sauvé et j'ai été frappé par cette pièce et je me suis dit, il faut absolument monter cette pièce. Je savais que Claude Régis l'avait montée, mais il y avait déjà quelques années. Et puis j'étais en contact avec Jérôme Hankins, qui me dit, mais il y a une autre traduction, parce que c'était une traduction qui était un peu vieillotte de Sauvé. Et il m'a dit, écoute, j'ai retraduit la pièce, et puis il connaissait Édouard. Et donc j'ai lu la pièce dans sa traduction, et là j'ai dit, il faut absolument, oui, absolument, décidément, il faut la monter. Et donc j'ai commencé à travailler, et puis par le contact...
Et qu'est-ce qui vous a fait dire ça, quand vous la lisez dans la langue, qu'est-ce qui vous fait dire, je vais le faire?
C'était une nécessité absolue. Édouard était quelqu'un qui, comment dire, c'est quelqu'un qui nous donnait de nos nouvelles. Et qui disait l'état du monde, et il utilisait le théâtre pour ça. Ces pièces sont des magnifiques et formidables boîtes à outils pour comprendre le mécanisme du monde. Et il était urgent de dire où on en était, c'était comme une alerte d'une certaine façon, pour aussi montrer les choses. Il m'a appris à regarder, par exemple, je me souviens toujours d'une exposition qu'on est allé voir entre Van Gogh et Bacon. Il avait d'ailleurs connu Bacon et on est resté toute la journée dans ce musée et il m'a appris à regarder. Regarde là, là. Il disait pas ce qu'il fallait voir, mais il disait voilà, regarde là. Si tu regardes là, tu vas peut-être comprendre quelque chose sur le tableau d'à côté, etc. C'était quelqu'un qui était... Oui, il était toujours dans la volonté de transmission. Donc ces pièces aussi sont dans une volonté de transmission. Transmission justement de cette volonté humaine. Comment être humain dans un monde inhumain, comme vous le disiez en introduction de l'émission. Et donc pour moi, c'était une évidence que c'était la pièce qu'il fallait monter là. Et puis voilà, je ne connaissais pas Édouard sinon. Et puis on a commencé à être en contact, et je lui ai posé des questions, et il avait cette chose magnifique, c'est qu'on lui posait des questions, et il répondait. À l'époque, c'était par fax. Donc il y avait des kilos de papier.
Donc vous aviez des fax d'Edouard Bond que vous receviez voilà, chez vous.
Plein. Et parce que quand on lui demandait comment ça va, il écrivait 3 pages. Donc, voilà. Et puis on posait des questions, il répondait tout le temps, inlassablement, avec une bienveillance, avec une méticulosité pour qu'on comprenne bien. Il voulait vraiment, il était obsédé, et d'ailleurs il m'a rendu, d'une certaine façon, obsédé par la quête du sens, l'énergie du sens. Et que, donc il fallait vraiment être là, très précautionneux avec ça. Et donc qui répondait à toutes les questions avec une gentillesse et une bienveillance magnifique. Et puis
là vous parlez d'une relation de confiance qui a duré dans le temps et qui a été très forte, mais il était parfois méfiant, c'était pas donné d'avance parce qu'il avait eu des mauvaises expériences en Angleterre, en tout cas il y avait des mises en scène qui lui avaient pas plu et il avait interdit à certains théâtres anglais de monter ses pièces, et je crois qu'il disait je ne veux pas que le théâtre anglais s'occupe de mes pièces parce qu'il les détruit, et qu'il préférait d'ailleurs travailler en France. Mais je veux dire,
il n'aimait pas ça.
La confiance n'était pas forcément donnée d'avance.
Si vous voulez, notre rencontre physique s'est faite parce que il a été intrigué des questions que je lui posais, parce qu'il pensait que Sauvé était une pièce que les gens ne comprenaient pas.
Peut-être qu'il faut qu'on redise quelques mots sur Sauvé, cette pièce qui a été créée en novembre 1965 au Royal Court de Londres et qui avait créé ce scandale, notamment parce qu'il y a cette scène de lapidation, de massacre d'un bébé dans un landau à coups de pierre. Et donc, il y a eu une censure ensuite parce que ça a créé polémique. Est-ce que vous pouvez peut-être raconter ce moment-là, et lui, comment il le racontait ?
Il y avait, donc, dans la pièce, il y a ce moment de la lapidation d'un bébé dans un landau, et ensuite, les 5 jeunes gens qui font ça pissent dans le landau et mettent le feu au landau. Donc il y a vraiment quelque chose de comment dire, c'est véritablement une métaphore d'une violence sociale. Bon, et puis, quand il écrit ça, il y avait déjà une pièce qu'il avait écrite et qui était visée par la censure, parce qu'on n'avait pas le droit à l'époque de parler de la famille royale. Donc il avait écrit, je crois, c'est pas les noces du pape, c'est pas les noces du pape, pardon, ça m'échappe, mais il y a, la reine-mère avait deux enfants qui étaient siamois, un débile et un autre qui était mort, et donc il se trimbalait avec le squelette de son frère, comme ça, donc il avait été frappé par la censure, et puis là, évidemment, il y a eu un procès, et Laurence Olivier est venue témoigner pour Édouard, et la censure a disparu à ce moment-là. Parce que effectivement, Édouard disait, avant de venir au tribunal, j'étais dans un pub et j'entends à 2 tables de moi un père qui dit à son fils, si tu continues, je te tue. Il dit, vous pensez que ça, c'est acceptable, que ce n'est pas plus violent que ce que moi je montre au théâtre, parce qu'on sait très bien que qu'il n'y a pas de bébé. On sait très bien que c'est faux, que c'est, je montre qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive là. Et puis il y a toujours effectivement dans ce geste de la lapidation, il y a à la fois le geste de justice d'après la Bible, on lapide la femme adultère, et en même temps c'est un meurtre. Donc c'est un geste paradoxal à la fois de justice et d'assassinat. Donc il travaillait toujours sur des choses comme ça, sur des paradoxes qui faisaient que il inquiétait le public, mais pour le faire réfléchir. Pour qu'on fasse un pas de côté et qu'on comprenne un peu mieux nous-mêmes et le monde, tout en disant que il ne supportait pas quand on dit non mais c'est inhumain. Il dit justement la question c'est que c'est humain et que ça pose la question de notre humanité. C'est une question qui était centrale. Et quand les derniers temps, quand on discutait ensemble, etc., et qu'il m'a dit « j'écris sur le viol d'un cadavre avec une bouteille de bière pour ramener une certaine dignité à notre théâtre ». Bien sûr, c'est violent, mais parce que la société est d'une violence, même d'une violence douce, mais encore plus dégueulasse. Donc il faut réveiller les gens. Et il avait il se sentait ce devoir-là. C'est pour ça qu'il était infatigable dans l'écriture, dans la pensée. Il était, il ne jugeait jamais les gens, hein, mais il était, en plus, il faisait tout pour que le spectateur soit face à son libre arbitre, que le spectateur choisisse. Il disait souvent, j'écris pas pour que les nazis soient moins nazis quand ils sortent. Au contraire, qu'ils soient encore plus nazis, mais qu'ils sachent pourquoi.
Je crois qu'il disait qu'il était extrémophile, qu'il aimait travailler sur des situations extrêmes, et
absolument,
qu'il appelait ces moments des faits d'agression, des événements théâtraux, en tout cas pour que justement on se sente déstabilisé.
C'est ça, il appelait le E.T., événement théâtral, effectivement. Et puis il était toujours à la recherche d'un nouveau drame. Il disait que le théâtre en tant que tel était juste effectivement une reproduction de la vie que les gens regardaient comme derrière une vitrine, etc. Mais alors que le nouveau drame qu'il cherchait était c'était une façon de remettre le spectateur de façon active au centre et de lui demander quelle partie il prend, d'être véritablement partie prenante de la représentation et de la pensée, et de pas se satisfaire que oui, ça ne me concerne pas, ce sont des gens sur une scène, voilà, et que la violence de Sauvé, ça a été ça, c'est-à-dire que les jeunes gens qui lapident le landau, c'était des jeunes londoniens dont les spectateurs pouvaient se dire c'est mon fils, et ça c'est insupportable.
Il lui disait, Edouard Bond, qu'il avait commencé à écrire, justement là dans les années 60, pour casser la nécessité et montrer comment la justice est possible. Et il y a un court poème qui éclaire aussi ça, je le lis. « Comme tous ceux qui vivaient au mi-temps du XXe siècle, ou qui sont nés plus tard, je suis un citoyen d'Auschwitz et un citoyen d'Hiroshima, de ce lieu où les méchants ont fait le mal et de ce lieu où les bons ont fait le mal, mais je suis aussi citoyen d'un monde juste encore à faire. »
Ouais. Ouais, moi, ça me bouleverse chaque fois, et comme entendre la voix d'Edouard tout à l'heure, c'est compliqué de parler de lui comme ça. J'arrive pas à penser qu'il n'est plus là et qu'on peut plus continuer notre dialogue. Mais bon.
Et vous parliez du début du dialogue en 1997 quand vous montez et que vous créez Sauvé. Et tout à l'heure, je vous posais la question de la confiance. Comment elle s'est tissée au départ?
C'était très joli parce que donc je posais des questions, il me répondait par fax, et puis on répétait un jour au théâtre, et puis j'entends taper à la porte, et je vais ouvrir, et je vois un homme qui me dit « Hello, I'm Edward Bond, I'm a playwright », et je dis « Oui, monsieur ». Je n'en revenais pas, c'était une chose incroyable. Et il était avec son épouse, Elisabeth. Et puis il est arrivé, il est rentré dans le théâtre. J'ai dit aux acteurs, je vous présente l'auteur de la pièce qu'on est en train de travailler. Il s'est assis et il m'a dit, mais continue à travailler. Donc évidemment, ça devenait compliqué parce que je n'osais plus rien dire. Enfin, tout était un peu... Et puis il a commencé à poser des questions aux acteurs. Alors les acteurs disaient « Ah bon, parce qu'il ne faut pas faire ça ?» Ils disaient « Non, c'est pas pour que vous ne fassiez pas. Je vous pose des questions pour que vous puissiez être conscient de ce que vous faites, que vous sachiez pourquoi vous le faites, c'est tout. » Donc ils posaient des questions. Et chaque fois qu'on a travaillé ensemble après sur une autre pièce, il était celui qui posait les questions. Comme ça, c'était tout à fait magnifique. Donc ça a duré une journée. Et puis il me dit « Je vais revenir demain. » Et puis il est venu pendant une semaine, et le soir après les répétitions, c'était le tout début du théâtre studio, après il prenait le balai, puis il balayait, je lui dis mais non, il me dit si, regardez, les autres font, ils rangent les chaises, ils font tout ça, il faut être utile. L'idée d'être utile était quelque chose qui était incroyablement ancré en lui, et que voilà, et donc l'histoire s'est faite comme ça, de façon complètement à la fois... irréel et très concrète et surtout très bienveillante et très tendre, et il est devenu le parrain du théâtre de façon évidente. Et après c'est une espèce de presque père, on va dire, parce qu'il a changé ma vie, il a changé ma vie d'homme, il a changé ma vie de metteur en scène par ce qu'il me disait, les conseils de lecture, les discussions, le dialogue, quand je disais, tiens, j'ai envie de qu'on fasse ça au théâtre, qu'on programme ça, qu'est-ce que tu en penses, Voilà, il renvoyait toujours d'ailleurs en me disant finalement, ben, c'est toi qui fais, mais pose-toi les bonnes questions. Il fallait toujours se poser les bonnes questions et il nous amenait à ça. Il y avait, c'était vraiment une relation qui était à la fois d'une tendresse et puis drôle parce que c'était, je voyais bien que quand il venait en France et que quelquefois il y avait des interviews, des rencontres, des conférences. Souvent, on disait, oui, Bond, il est intolérant, il est sectaire, dogmatique, il est là. Mais en fait, pas du tout. Je pense qu'il y avait des problèmes de traduction, je pense, et puis de rapport intime avec la personne. Parce que moi, c'est une des personnes avec lesquelles j'ai le plus ri. Il était vraiment drôle, il se cachait, il faisait des blagues, il arrivait derrière, il faisait boum. Comme ça, et ça le faisait rire quand on sursautait. Enfin bon, c'était vraiment comme un enfant. Quand il est venu, il m'a dit, je veux voir ton bureau, je veux voir là où tu travailles. Donc je l'ai emmené là, il dit, parce que c'est comme ça, c'est là qu'on connaît les gens. Et quand je suis allé à Cambridge, la première chose, il m'a dit, non, tu rentres pas dans la maison, viens avec moi au fond du parc. Et il y avait la maison où il écrivait. Et il voulait qu'on se connaisse comme ça. Je trouve que c'est une relation d'une rareté... extrême et que
et vous sauriez
je
décrire,
lui dois...
Vous sauriez décrire cet endroit où il écrivait ?
Ah, c'est une maison qui était presque tout en verre, une petite maison au fond du parc. Le toit était en bois et sinon les murs étaient de verre. Il y avait une table, il y avait énormément de notes, il y avait des dessins au mur, il y avait des photos. Beaucoup de photos, des photos du retable d'Isenheim, il y avait des photos du Caravage, il y avait, voilà, et puis de Giacometti aussi, parce qu'il m'avait dit, je sais que tu aimes Giacometti, il m'avait envoyé des choses comme ça, enfin bon, parce qu'on avait un dialogue régulier et constant, moi je ne pouvais pas me passer de ne pas lui parler pendant un long temps, donc... c'était toujours ça, et il écrivait des poèmes, il m'envoyait des poèmes, et puis tous les ans, il envoyait des poèmes aux gens avec qui il était en contact et qu'il aimait, il envoyait des poèmes. Donc on attendait, enfin en tout cas, moi j'attendais le poème de l'année avec une hâte incroyable, où quand un metteur en scène montait un spectacle et qu'il posait des questions et qu'il pensait que ça pouvait être utile à notre propre réflexion, il nous envoyait des copies. Donc quelquefois, c'était parfois cruel, parce que quelquefois, il disait à un metteur en scène, mais enfin, vous n'avez rien compris. Avant de monter une pièce, il faut comprendre pourquoi la scène 2 est avant la scène, est après la scène 1. Sinon, il ne faut pas travailler. Et donc, on reçoit ça, c'est cruel, parce que quand on voit le nom du metteur en scène, en plus, parfois, c'était un peu gênant, mais voilà, c'était... Il avait cette... Oui, il avait ce regard d'un bleu incroyable qui était d'une bienveillance et où il disait toujours qu'il n'est... Il dit, mais tu sais, je ne suis pas un homme en colère. Parce qu'on le croyait souvent en colère. Et voilà, moi je lui dois Sarah Kane, je lui dois la rencontre avec Sarah, je lui dois d'avoir monté Blasted et surtout 448 Psychose. C'est quelqu'un à qui... comment dire, c'est pour ça que je dis, il a changé ma vie vraiment profondément.
Et on parlait de cette pièce fondatrice Sauvée que vous avez montée en 1997, qui a donc fait ce scandale en 65 à Londres, et que Claude Régis avait monté, lui, en 1972. Il y avait déjà eu des réactions assez violentes à ce moment-là. On va écouter la voix de Claude Régis à ce moment-là, en parler, et parler de l'écriture d'Edouard Bond.
La nouveauté de Bond, c'est de faire éclater les répercussions qui sont devenues déterminantes dans l'humanité depuis que nous sommes entrés dans ce qu'on peut appeler, si vous voulez, l'ère atomique et toutes les extraordinaires découvertes où la science nous entraîne maintenant et qui sont d'ailleurs des choses absolument fabuleuses parce que, justement, la science moderne les mathématiques modernes établissent que vraisemblablement ce qui est vrai c'est l'imaginaire et que la réalité est purement apparente, si vous voulez, c'est une vérité poétique qu'on avait découverte théâtralement, mais il se trouve que c'est maintenant une chose qui est devenue scientifique. Or la plupart des gens vivent encore à l'époque de la géométrie euclidienne, c'est-à-dire qu'ils croient encore que les droites parallèles ne se rencontrent jamais par exemple. Et c'est pour ça que Bond est un auteur tout à fait neuf et tout à fait passionnant. Et cela dit, maintenant qu'Early Morning a été monté en premier, je pense que si c'est une malchance pour Bond, c'est-à-dire s'il a été mal reçu pour cette première œuvre, je pense pour moi c'est une chance, parce que en découvrant ses pièces suivantes, et spécialement la pièce qu'il vient d'écrire maintenant à partir de la pièce de Shakespeare, Le Roi Lear, en connaissant ses obsessions, en connaissant sa violence, en connaissant son délire et son onirisme, ça me permet peut-être de moins faire de fautes en montant sauvé, c'est-à-dire en ne se contentant pas de monter simplement l'anecdote et de ne pas en faire une tranche de vie ouvriériste ou une pièce sociale comme on les faisait autrefois, mais à partir de ce milieu-là, qui est le milieu le plus atteint par les phénomènes dont nous parlions, à partir de là, de faire vraiment un espèce d'éclatement du monde contemporain.
Christian Benedetti, j'ai l'impression qu'il y a une chose qui était importante pour Edouard Bond dans cette question: comment le théâtre peut transformer le sens du monde, peut nous transformer nous. Il y avait l'importance de l'imagination. Et il disait: l'avenir de notre espèce ne dépend que d'une seule et unique chose, que l'imagination de l'adulte soit aussi libre que l'imagination de l'enfant. Alors l'adulte imaginera le réel, c'est-à-dire créera la valeur dans le monde des faits. Et c'est vrai que il aimait souvent répéter que l'homme était le seul animal qui se raconte des histoires, et
c'était qui fait du théâtre.
Qui fait du théâtre. Et c'était important pour lui.
C'était essentiel, parce qu'on a travaillé beaucoup, on a fait des workshops ensemble, et il disait: nous allons travailler sur le seul territoire où il n'y a pas de faute, qui est l'imaginaire. Et puis il adorait les enfants et les jeunes gens. Il a d'ailleurs écrit une pièce qui s'appelle Les Enfants, que j'ai montée d'ailleurs en Roumanie plusieurs fois. Et puis il travaillait sur ça s'appelle Theater in Education, où il a écrit des pièces pour les adolescents. Et il travaillait beaucoup avec une troupe qui s'appelle le Big Brown, qui est toujours d'ailleurs dirigée par Chris Cooper, et avec laquelle il faisait un travail extraordinaire avec justement ces jeunes gens. C'était comme des brigades de théâtre qui pouvaient dégainer une pièce comme ça très très rapidement. Et c'est vraiment essentiel, parce que ça a aidé et sauvé énormément de jeunes gens qui étaient perdus dans ce monde-là, puisque il disait: en fait, nous donnons, il y a des choses que nous faisons qui rendent encore possible Auschwitz. C'est-à-dire qu'il disait, par exemple, quand un enfant vient vers vous avec un dessin et que vous dites non mais attends, plus tard, il dit: en fait, vous reproduisez Auschwitz, parce que vous tuez l'imaginaire. C'était pour lui l'essentiel, ça. Il disait: la différence entre un animal et un humain, c'est que voilà, vous pouvez donner un violon à un singe, il fera peut-être un peu de, il fera du bruit, mais la musique, il ne peut pas l'envisager, alors que l'humain, lui, peut l'envisager.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. Nous sommes avec le metteur en scène Christian Benedetti pour évoquer l'œuvre du dramaturge anglais Edouard Bond. Et nous écoutons Dance Me to the End of Love par l'ensemble Phoenix de Munich.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely. Lift me like an olive branch and be my homeward dove, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I own, you know the limits of, and dance me to the end of love. Dance
now and dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. And dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me to the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
On poursuit avec la voix d'une jeune spectatrice au Studio Théâtre d'Alfortville. C'est en 2003, à la sortie de la pièce « Les enfants » d'Edouard Bond.
Est-ce que tu penses que le théâtre, ça peut aider à vivre ?
Je pense que oui. Je pense que ça aide à mieux vivre. Surtout les textes d'Edouard Bond, je pense. Parce que dans ses textes, il analyse toujours la société. Il dit ce qui va pas. Et quand on lit ses textes, on se dit qu'en fait... Le monde, la vie, elle n'est pas aussi belle qu'on le croit. Et ça nous aide à vivre, je pense.
C'est paradoxal, ça.
Ça nous aide à vivre parce qu'on croit que tout est facile, tout est simple. Mais il nous rend compte que... Il nous fait voir ce qu'elle est en vrai, en fait. Et ça nous aide parce que... On réfléchit plus sur ce qu'est le monde.
Christian Benedetti, il est touchant, ce témoignage d'une jeune femme. Vous le disiez tout à l'heure, il y avait une grande importance pour Edouard Bond à la question du théâtre pour les jeunes gens. Et d'ailleurs, il se confrontait souvent aux enfants ou dans le milieu scolaire. Il allait les rencontrer. Et puis, il a écrit plusieurs pièces pour les jeunes, dont les enfants. Est-ce que vous l'avez vu, vous, en échange avec des jeunes gens ?
Beaucoup. Parce que quand j'ai monté 11 débardeurs, quand j'ai monté les enfants, il était toujours là à parler avec eux, à échanger. Et il faisait ça très, très volontiers. Et il avait une science de l'enfance, d'une certaine façon. Il les comprenait profondément. Il disait toujours la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'adulte veut savoir et l'enfant veut comprendre. Alors, les choses sont beaucoup plus simples de parler avec un enfant. Et quand on faisait des workshops, évidemment, il racontait beaucoup d'exercices qu'on faisait faire à des enfants et qui simplifiaient la vie d'une certaine façon. Et je me souviens que quand j'avais monté justement les enfants en Roumanie, qui étaient dans les prisons en Roumanie, et j'avais filmé chaque version et puis je lui avais montré. Il avait été beaucoup, beaucoup ému, surtout parce que c'était des enfants qui étaient en prison aussi. Et après, il a écrit un texte sur ce travail en disant que l'enfant qui jouait Joe avait tout compris au monde et comment ça fonctionnait. Et c'était très émouvant, mais il aimait beaucoup, beaucoup échanger avec eux. Il fallait. Et pourtant, une fois, je lui ai dit, mais c'est drôle parce que tu n'as pas d'enfant. Il me dit non, parce que je n'aurais pas été un père acceptable.
Est-ce qu'il leur parlait de l'enfant qu'il a été ? Parce que je le disais en début d'émission, l'enfant qu'il a été hante toute son œuvre, puisque l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, des bombardements dont il parle...
Non, il ne leur parlait pas de ça. Il ne parlait pas d'intime avec eux. Il y a un livre qui s'appelle... Alors, d'ailleurs, je voulais dire, pardon, par parenthèse, quand Claude Régis parle de Early Morning, c'est ça, c'est cette pièce dont je parlais tout à l'heure avec la reine-mère
où il y a eu une censure deux... d'ailleurs immédiate,
voilà.
Je crois.
Voilà. Et donc, il y a un livre qui s'appelle Le jour, je crois en anglais, Le jour où les enfants sont partis, qui est un livre en fait documentaire sur le moment où en Angleterre, pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités ont rassemblé tous les enfants et les ont envoyés à la campagne pour les protéger des bombardements de la Blitzkrieg. Et donc il y a eu des trains entiers d'enfants mis à l'abri d'une certaine façon. Et il cherchait ce livre. Il voulait ce livre parce que pour lui, il l'avait eu entre les mains à un moment. Et pour lui, c'était un livre qui était important. Il voulait. Et j'ai, par chance, je l'ai trouvé et donc je lui ai offert. Et il était, mais bouleversé, parce qu'il revoyait, il retraversait son enfance, il retraversait toute sa vie, de là où il venait, et se disant que... Parce que lui aussi a été un de ses enfants qui a été emmené à la campagne, etc., et que peut-être il n'aurait pas survécu dans les bombardements, mais voilà, et ça c'était... Mais ça c'était à lui, c'était intime. Il en parlait, mais de façon presque, je ne vais pas dire codée, mais on se comprenait. On se comprenait. D'ailleurs, dans le texte où il se présente, il dit que sa mère avait peur du facteur parce qu'il était en uniforme. Il y avait une peur de tout ce qui pouvait être un uniforme. Il y avait un traumatisme là-dessus aussi. Mais bon. Mais sinon, avec les enfants, non, au contraire, il jouait beaucoup. Il était très drôle, il riait, il les provoquait, il les faisait s'amuser. Il y avait des choses autour d'une tasse. L'objet de la tasse était très important pour lui, comme une chaise était très importante. D'ailleurs, il y a une pièce qui s'appelle chaise, et la tasse aussi. La tasse est la seule chose qui reste dans la dévastation de existence que j'ai monté, qui est la pièce qui m'a offert pour mon anniversaire.
Vous disiez qu'il avait marqué « Happy Birthday » sur le manuscrit.
Oui. Oui, il est venu voir 448 Psychose en 2001.
De Sarah Kane.
De Sarah Kane, que j'ai monté grâce à lui, parce que je ne savais pas que le texte existait, puisque Sarah n'en avait pas parlé. Et puis, et il m'a envoyé le texte en anglais, et j'ai dit « c'est incroyable, je vais le monter ». Et il m'a dit « attends, je vais en parler à Simon, qui était le frère de Sarah ». Et puis ça s'est fait comme ça. Et quand il est venu voir le texte, il est venu le soir de mon anniversaire. Et après la pièce, il m'a dit « Happy birthday ». Et il m'a donné une enveloppe avec le texte de Existence. J'ai lu dans la nuit et je lui ai dit « L'année prochaine, Edouard, à la même date, on jouera Existence ». Et c'est une pièce que j'ai montée, que j'ai remontée après, et donc mon théâtre s'appelle le Théâtre Studio, et l'histoire qui est assez jolie, des années plus tard, je l'ai recréée au studio de la Comédie-Française. Donc c'est une espèce de... comme ça, de clin d'œil, de sourire comme ça, et voilà.
Et d'ailleurs, c'était aussi fort son attachement au Théâtre Studio d'Alfortville, à la façon de travailler que vous aviez là, au public qui était là, parce que ces pièces étaient montées par ailleurs dans d'autres institutions, au théâtre, la Colline, les Amandiers... dans beaucoup d'autres lieux, mais il avait un attachement à la façon de travailler et à ce lieu, Alfortville, que vous aviez créé.
Il aimait beaucoup ce lieu, beaucoup. Il m'a demandé de le laisser dans le lieu une nuit, par exemple. Et il m'a dit « je voudrais rester là ». Je dis « écoute, oui, si tu veux ». Et le lendemain, on l'a trouvé comme ça, épuisé. Et je lui dis « mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il m'a dit « J'ai réfléchi, j'ai traîné des chaises, j'ai fait des... » Et de temps en temps, quand on était, nous, quand là, et lui était dans la salle, et il faisait du bruit, il cassait une tasse pour voir, il écrivait, il revenait. C'était un lieu où visiblement, ce lieu l'a inspiré beaucoup, et moi, ça me touchait beaucoup que ce lieu, justement, active son imaginaire, et puis parce que ce lieu est très modeste, très humble, c'est pas un lieu qui est très riche. Et je crois qu'il aimait ça. Je me souviens toujours qu'il disait qu'il faisait du théâtre pour ceux qui construisent les maisons, mais pas pour ceux qui les payent. Et il disait qu'il travaillait au théâtre studio. Il travaillait. Il n'était pas monté, comme on dit, mais il, évidemment, même si je mettais en scène ses pièces, mais il disait, là, on travaille. Voilà, il y avait quelque chose de... La notion de travail, la notion d'utilité, c'était pour lui essentiel. Il y avait quelque chose de... C'était un artisan des mots et de la pensée. Parce qu'il la construisait, il la développait toujours, en permanence. Et en maniant des paradoxes, en maniant des choses, évidemment, qui sont parfois... peut-être parfois un peu difficiles à comprendre, mais en même temps non, très simples, parce que c'est nous qui compliquons souvent les choses. Alors que ce qu'il écrivait, au bout du compte, était très simple. Il fallait se poser les bonnes questions. C'est ça, et il nous enseignait ça. Enfin, moi, c'était... Oui, c'est difficile pour moi de parler en disant « c'était », parce que ça... Bon, je suis ému, je peux pas continuer.
On va écouter voix d'Alain Françon, en 1993, oui. Parler d'Edouard Bond.
C'est un théâtre qui m'a frappé par la... Voilà, la complexité, quoi. Enfin, la complexité qui, paradoxe total, mais il ne fonctionne que sur des paradoxes, cet auteur-là, finalement se résout dans la plus grande simplicité après. Mais cette apparente simplicité qu'il y a à la fin, quand on regarde la représentation, je veux dire, la somme de paradoxes qui l'amène, et c'est presque infini, quoi. Mais c'est là que ce théâtre, il est formidable, c'est qu'il est paradoxal sans arrêt, quoi. Il parle de culpabilité, il parle d'innocence, il parle de politique, mais il parle de l'intime. Enfin, c'est toujours, tout est. Moi, je trouve que tout est imbriqué dans ce théâtre-là. En plus, c'est le théâtre d'un homme qui connaît le plateau, mais alors comme j'en connais pas d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, il faut voir l'intelligence avec laquelle, sur une scène, il donne une didascalie sur un signe qui doit fonctionner. Par exemple, dans la compagnie, c'est première unité le vert, deuxième unité la chemise qu'on enlève, enfin des choses comme ça, mais qui font la scène, physiquement qui font la scène. Donc c'est un homme de plateau et qui manipule les signes d'une manière incroyable. Et en plus, ce qui est magnifique en plus, c'est que tout ça n'a aucune gravité. Même si, effectivement, ce qui est parlé est grave, la manière dont il le fait parler sur un plateau, c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire que c'est pas une histoire d'alternance entre le tragique et le comique, mais constamment dans toutes les scènes, elles sont traversées par le tragique et ce qu'il lui appelle la farce, même il parle même pas de comique, il parle de farce, c'est-à-dire que souvent dans les scènes, les personnages vivent la situation sur deux modes différents. Il y en a un qui vit ça sur le mode de la problématique, entre guillemets, et l'autre sur le mode de la farce. On l'a pas dit suffisamment que c'est un auteur drôle, enfin, en plus.
Vous êtes d'accord avec ça, Christian Benedetti, c'est aussi un auteur drôle ?
Absolument, je trouve que ce que dit Alain est tout à fait juste et puis beau dans la façon dont il en parle. Mais absolument, absolument.
Je crois que quand les pièces de guerre, quand Alain Françon les a montées, donc cette trilogie en 1994 au Festival d'Avignon, les comédiens étaient étonnés que les spectateurs rient à certains endroits.
Oui. Mais oui, mais Edouard était, lui, ravi. Il était ravi parce que, effectivement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme s'il faisait des blagues. Et donc, il était comme un enfant quand il voyait ses pièces. C'était assez joli de voir son visage.
Est-ce que vous savez pourquoi il interdisait à certains théâtres en Angleterre de monter ses pièces ? Pourquoi il disait « certains théâtres détruisent mes pièces » ?
Parce qu'il disait que les metteurs en scène voulaient être plus malins que ces pièces et qu'ils voulaient faire du spectacle avec et du commerce et que surtout non. Et puis il trouvait, je me souviens avoir parlé avec un directeur de théâtre anglais qui m'a dit « Écoute, comme tu connais Edouard, est-ce que tu pourrais pas lui demander, je voudrais vraiment monter cette pièce, mais ça fait un moment qu'il ne veut plus me parler, mais je pense que si tu dis un mot peut-être, toi, bon... » Je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis pas magicien, je ne suis pas... Et j'ai dit à Edouard, écoute, voilà, il voudrait monter. Il me dit, mais non, mais il est vulgaire, il est bête. Ok, d'accord, c'était fini, c'était plié et définitif, et on ne pouvait pas revenir en arrière. Et c'est vrai aussi, comme dit Alain, c'était un homme de plateau, il a lui-même monté ses pièces, il a monté chaise, il a monté sous-chambre, il a monté Déa, il a monté La Mer, il a monté ses pièces. Et quelquefois, c'était, moi j'ai vu deux spectacles qu'il avait montés, enfin deux de ses pièces qu'il avait montées, et c'était passionnant de voir qu'à la fois il y avait des grandes justesses et puis en même temps il y avait des maladresses de jeunes metteurs en scène. C'était touchant à voir ça.
Donc vous lui parliez
Oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'il me disait qu'alors qu'est-ce que tu en penses? Et je lui disais c'est étrange parce que là on pourquoi tu as fait ça? Et il me dit je ne savais pas comment faire. Alors voilà, mais c'était très touchant. Et puis de temps en temps, après, quand moi je montais un spectacle et qui venait, il disait, tu vois, toi non plus, tu sais pas comment faire là. Et donc, je disais, bon, ok, c'est légitime.
Alors, on va écouter la voix d'un autre metteur en scène, Patrice Chéreau, en 1975, qui a monté sa pièce Lire.
Mais tu as eu aussi la chance, dans le cas de ce Lire d'Edouard Bond, d'avoir une œuvre, je crois.
Oui, je me suis trouvé dès les premières répétitions avec la certitude d'avoir un auteur devant moi. Oui. C'est-à-dire d'avoir sur la table, comme ça, aux premières répétitions, un texte qui était un texte qui avait un mystère, où il y avait un monde. C'est-à-dire que quand on est en répétition devant ce monde-là, il s'agit de le déchiffrer, il s'agit d'essayer d'y rentrer. Et c'est un monde qui vous envahit, c'est un monde qui vous pénètre, c'est un monde qui joue aussi sur les nerfs beaucoup, parce que la pièce est très dure. N'est pas drôle du tout, très désespéré.
Oui, mais
elle est drôle en même temps.
Il y a un matériel énorme pour les comédiens.
Mais il y a un vrai matériel, il y a de vrais rôles,
oui.
Ce qui arrive rarement, tu le sais.
Oui, nous le savons.
Il y a de vrais rôles, c'est très rare de trouver des auteurs qui savent écrire réellement pour les comédiens. Ça ne se mesure pas seulement au nombre de lignes, mais ça se mesure aussi à la vraie complexité, à la vraie construction des rôles, à la vraie matière. Là, les comédiens, en tout cas la plupart, ont une matière entre les mains, si je puis dire.
Christian Benedetti, c'était quoi cette matière pour les comédiens? C'est beau de dire que t'es comme déchiffrer des énigmes. Comment avec les comédiens, vous travaillez cette langue-là?
Ah, on la travaille en se questionnant tout le temps. C'est des questions. Ne jamais se satisfaire de l'à peu près. Et poser les bonnes questions. Par exemple, je me souviens que dans Mardi, l'acteur qui jouait le père, à un moment, se trouve comme ça, la didascalie, c'est « il rit d'un rire creux ». Et je me souviens que l'acteur arrête la répétition et Edouard était là, il dit « mais pourquoi il rit ?» Et Edouard dit « il rit parce que je l'ai écrit ». Et bon, alors l'acteur était un peu fâché, comme ça, un peu... Et il dit par contre, il dit, mais c'est une mauvaise question, parce que la bonne question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un rire creux? Et c'est tout, voilà le matériau avec lequel l'acteur travaille. Comme dans Le Crime du 21e siècle, quand un des personnages arrive et qu'on lui a arraché les yeux, Edouard écrit qu'il pleure. Comment on pleure si on n'a plus Dieu? Et donc c'est tout ça, c'est ces questions qui sont profondément de l'ordre de l'imaginaire aussi et qui sont profondément théâtrales. Seul le théâtre peut répondre à ça aussi, par l'acteur. Il avait une confiance et un amour énorme des acteurs. Et puis on voit à quel point quand on voit les pièces de guerre, quand il décrit la scénographie de la deuxième pièce de Tick and People, bon, qui s'est traduit je ne sais plus, mais c'est enfin c'est des, la pièce des, oui, La Furie des Nantis. Il décrit en fait ce que nous allons voir des années après à New York après les attentats contre les Twin Towers, où quand il écrit Lire, qui est l'obsession d'un homme qui veut construire un mur autour de son royaume. Et on a le mur que Trump a voulu faire construire avec autour du Mexique.
Je crois qu'Alain Françon disait justement que les pièces de guerre nous fabriquaient une mémoire du futur.
Absolument. Il disait d'ailleurs, on devrait avoir peur du futur, nous y sommes déjà allés. Voilà, et on voit aussi le mur en Israël. Donc, comment dire, c'était il y a en 72. Comment cet homme peut, comme ça, avait cette prémonition incroyable, mais parce que je pense qu'il regardait le monde d'un endroit qui lui appartenait véritablement, dont il était le seul à regarder le monde de cet endroit-là, et il nous prenait la main pour mettre le doigt sur des choses, pour nous accompagner.
Christian
c'est
Benedetti.
Une lumière.
Benedetti, pardon.
Oui, pardon.
Vous m'avez parlé d'un texte avant l'émission que vous aviez envie de nous lire.
Ah oui, c'est un texte que je trouve très beau parce qu'il est, vraiment, c'est pour aujourd'hui ce que nous traversons en France. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le fait que nous, comment dire, il s'agit de, ça, il n'y a jamais de hors contexte avec Édouard. Ça s'appelle La Brèche. Quand la brèche entre riches et pauvres s'élargit, les choses deviennent barbares. On construit des hôtels particuliers, des lotissements tombent en ruine. Et on voit des mendiants dans les rues. La valeur du capital augmente et augmente aussi les statistiques des crimes. On construit plus de prisons. Et on apprend aux enfants à l'école à obéir comme s'ils étaient déjà en prison. Et tandis que la brèche entre riches et pauvres s'élargit et que les choses deviennent plus barbares, seul le barbare peut s'accommoder de la barbarie qu'il a créée. Et alors l'idiot et le brutal sont mis au pouvoir. Nous n'avons pas besoin d'un passeport pour entrer en enfer. Nous y sommes déjà quand la brèche entre riches et pauvres s'élargit. Quand nous ne savons pas comment vivre, nous transformons nos cités en désolation, puis nous nous tuons l'âme.
Il vous disait, Christian Benedetti, que vous receviez des poèmes des messages au début par fax d'Edouard Bond. Est-ce que là, ces dernières années et cette dernière année, vous receviez, alors j'imagine plus par fax, mais vous receviez
des écrits. Il avait, oui, beaucoup. Il m'envoyait, dès qu'il décrivait quelque chose, il me l'envoyait. Alors il me l'envoyait en anglais. D'abord, il y a des choses qui étaient difficiles à lire en anglais. Mais bon, je me débrouillais, j'arrivais. Et puis David Thuayon, qui est vraiment un très grand traducteur d'Edouard et qui a contribué justement à le rendre plus clair, plus simple à la compréhension, a traduit beaucoup de ces documents-là. Mais un des derniers textes qu'il m'a envoyé, qui était pour la nouvelle année, qui était, ça s'appelle Robin, et c'est un texte qui est incroyable, qui dit « Et si nous avions 2 ans de retard par rapport à la montée de l'extrême droite ?» dans toute l'Europe. Il pose toujours cette question dans tout le texte, et si nous avions 2 ans de retard ? Voilà, pourquoi nous n'avons pas voulu faire ? Pourquoi nous n'avons pas voulu voir ? Et il est dans un texte où il écrit une ombre plane sur l'Europe, qui est un texte qui est écrit, je pense, en 2000 ou quelque chose comme ça. Il dit, je cite de mémoire, hein, il ne suffit pas... d'être le péniste, de voter Le Pen pour être le péniste. Il ne s'agit pas de toute une série de choses comme ça pour être le péniste. Il s'agit de parler mal à nos enfants, de les croire criminels et d'applaudir la vacuité sur les scènes de théâtre. Eh ben, voilà. C'est dommage que j'ai pas avec moi ce texte-là parce que c'est un texte que j'aurais pu vous lire aussi, que c'est quelques lignes, hein, mais je trouve que c'est tellement...
Et est-ce qu'il y a des textes, justement peut-être récents, que vous avez envie de mettre en scène peut-être, d'Edouard Bond, Christian Benedetti ?
Oui, il a écrit une trilogie, il y a Déa, donc c'est où il prend la figure de Médée, avec un jeu de mots. Déa, Dia, My Death, et où la figure de Médée est présentée comme un élément subversif de la société, pas simplement la femme qui tue ses enfants, etc. C'est pas la question. C'est qu'est-ce que ça raconte d'une société, comment ça peut la renverser, ça. Et d'ailleurs, la pièce Les Enfants, que j'ai montée il y a quelque temps, il disait le sujet, c'est qu'est-ce que diraient les enfants de Médée si on ne les avait pas assassinés. Donc il y a toujours cette préoccupation de cette figure-là de Médée. La deuxième pièce de la trilogie, c'est Le voleur de chaussures. Et il y a la troisième, c'est Le manteau rôti. Et Le manteau rôti, il dit dans un texte qu'il m'a envoyé pour accompagner l'envoi de Déa et du voleur de chaussures, il dit que le manteau rôti est encore dans mes cahiers parce que pour l'instant il faut l'y laisser, la traduire après, et il faut bien respecter l'ordre de l'écriture, donc ne pas monter une pièce avant l'autre, et on publiera le manteau rôti à la fin, parce que si on le publie maintenant, on risque de retourner et de rajouter du chaos. Donc voilà, alors ça reste énigmatique. Donc moi j'ai lu Déa et le voleur de chaussures, j'ai pas lu encore le manteau rôti. Voilà, c'est dans ses carnets encore. Je pense que son agent avec qui je suis ami aussi va. Je pense que je vais lui demander qu'elle me l'envoie.
Donc le compagnonnage continue, Christian Benedetti.
Oui, en tout cas, j'essaie de continuer le dialogue qu'on a entamé. Je me dis que, je pense qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Je repense à son œil rieur et je pense à tous ces moments passés ensemble. Et pour moi, c'est impossible de mettre un terme à ça. Ça, c'est pas possible.
Merci beaucoup, Christian Benedetti. On va vous laisser repartir sur Tchekhov et la mouette, puisque vous repartez en répétition.
Absolument.
En Roumanie.
Absolument.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous pour parler d'Edouard Bond. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation et à la technique ce soir. Merci à Eric Boisset.